France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, les dieux pouvaient s'amuser à créer de mauvaises surprises. Ils savaient tout brouiller et ça les faisait rire. C'est ce qui est arrivé à Ulysse. Après 20 ans d'absence, 10 ans de guerre à Troie et 10 ans de vagabondage sur les mers, il rentre enfin chez lui. Il est sur une plage de son île, Ithaque. Il regarde sa terre, tellement désirée, mais il ne reconnaît rien, rien du tout, alors qu'il a débarqué sur une côte qui lui était très familière. Ce n'est pas seulement que 20 ans, c'est long, et qu'il est donc normal qu'il ne reconnaisse pas son propre pays. Une divinité est intervenue, et pas n'importe laquelle, mais celle qui est censée être son amie la plus proche, sa protectrice, la déesse Athéna, s'est moquée de lui. Elle a répandu une brume déformante sur ses yeux, sur lui et sur tout le paysage. Rien ne paraît comme avant. Ulysse est perdu.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Pourtant, les marins qui ont conduit Ulysse chez lui à Ithaque l'ont bien assuré qu'enfin, après toutes ces années, toutes ces souffrances, il retrouverait sa terre. Ces marins sont fiables, honnêtes. Ils ont tenu parole. Ses passeurs, les gentils phéaciens, l'ont reconduit à Ithaque avec leur fabuleux bateau qui va vite comme la pensée. Le voyage n'a duré qu'une nuit. Les phéaciens ont déposé Ulysse au petit matin, encore endormi, sur une plage de son île. Ils ont déposé près de lui, sous un grand olivier, les cadeaux somptueux qu'ils lui ont offerts. Un coffre plein d'or et de beaux vêtements, 13 trépieds de bronze et 13 chaudrons. C'est énorme. Ulysse a dormi pendant tout le voyage. Il ne s'est rendu compte de rien. Il dormait encore quand les phéaciens l'ont installé sur la plage, enveloppé dans des tissus de luxe. Puis, les phéaciens sont repartis vers leur île, sans rien dire, en laissant Ulysse dormir, seul, sur la plage. Quand il se réveille, Ulysse est surpris. Il voit des rochers escarpés, des arbres, des chemins, une baie où l'eau est calme. Mais ça ne ressemble à rien de ce qu'il connaît. C'est comme s'il arrivait là pour la première fois. Il voit bien près de lui les trésors que les phéaciens ont rassemblés au pied d'un olivier. Il les compte, rien ne manque. Mais Ulysse n'a aucune idée de l'endroit où il est. Il gémit, se frappe les cuisses, comme on fait d'habitude quand ça va mal.
Il se leva d'un bond, contempla sa terre natale, puis soupira, et frappant du plat de la main ses cuisses en gémissant, il dit ces mots.
Hélas, en quelle terre encore ai-je échoué ? Vais-je trouver des brutes, des sauvages sans justice, ou des hommes hospitaliers craignant les dieux ?
Ce genre de questions, Ulysse se les posait quand il arrivait dans un endroit inconnu. En général, ça tournait mal. Il découvrait qu'il avait affaire à des hommes hostiles qui ne respectent pas les dieux. Est-ce que son île d'Ithaque est devenue hostile, comme celle des Cyclopes, celle des Lestrigons, ces cannibales ? Est-ce qu'une catastrophe se prépare, comme sur l'île du Soleil ? Ulysse entre en colère et commence à maudire les Phéaciens qui l'ont si méchamment trompé. Il supplie Zeus de les punir. En fait, si Ulysse ne reconnaît rien, c'est qu'une déesse Athéna lui a joué un très mauvais tour. Elle a répandu sur Ulysse et sur le monde environnant une brume, une vapeur qui trouble toute vision. Ulysse s'en trouve changé. Il ne ressemble plus à lui-même et les choses autour de lui, pourtant bien familières, ont totalement changé d'aspect. Rien n'est plus comme avant. Ulysse, Ithaque sont devenus méconnaissables. En fait, en changeant l'aspect du paysage et d'Ulysse, Athéna cherchait à le protéger. Si Ulysse avait été reconnaissable et s'il avait reconnu sa patrie, il se serait précipité dans son palais et les prétendants, ces jeunes gens qui ont pris possession de sa maison, qui dévorent ses richesses et veulent à tout prix épouser sa femme, l'aurait massacré sans hésiter.
Paul Demont, helléniste.
Alors la situation des prétendants à Ithaque est une situation qui est immorale. Ces prétendants sont du début à la fin condamnables et sont assimilés par des échos très précis aux sauvages que rencontre Ulysse dans ses voyages.
Il fallait qu'Ulysse comprenne que chez lui, ce n'est pas chez lui. D'autres ont le pouvoir sur son île, sur sa famille, ses richesses, sur lui. Il fallait qu'il se sente étranger et paraisse étranger, même auprès de sa femme Pénélope, de son fils Télémaque et de son père, le vieux Laërte, toujours vivant, qui se morfond de tristesse, retiré au fond de sa solitude à la campagne. S'il était reconnu même par ses intimes, il serait en danger. Ulysse ne peut pas être lui-même, ou plutôt être lui-même, c'est ne pas être reconnaissable. L'Ulysse qui s'en sort, qui finit grâce à son intelligence, à sa ruse, par vaincre ses adversaires, n'est lui-même que s'il ne se montre pas comme Ulysse. C'est comme ça qu'il est vraiment Ulysse malin et insaisissable. La déesse Athéna, qui pendant toute la guerre de Troie a toujours protégé Ulysse, veut profiter de ce spectacle. Un Ulysse paumé, désemparé, alors qu'il se croit intelligent. Ça va être amusant. Ulysse, pour donner le change, va se mettre à inventer plein de choses. Ça peut être drôle. La déesse pourra encore se moquer de lui. Athéna apparaît. Pas sous la forme d'une déesse, mais comme un jeune homme du coin, sous l'apparence d'un jeune berger très bien mis, avec une belle cape sur les épaules et un épieu à la main. On aurait dit un fils de prince, dit Homère. Les nobles, effectivement, pouvaient passer du temps à garder des troupeaux. Le bétail était de la richesse. Il fallait en prendre soin. Ulysse se précipite vers ce jeune homme et le questionne. Il lui demande où il est. Athéna, sous l'apparence du jeune berger, se moque de lui et nous donne une description d'Ithaque.
Es-tu sot inconnu ? Où viens-tu de si loin que tu ignores ce pays ? Car ce n'est pas un lieu si anonyme. Beaucoup de mortels le connaissent, des hommes qui habitent vers l'aube et le soleil, ou encore plus loin vers les brumes de l'ombre. Oui, cette île est rocheuse et peu faite pour les chevaux, mais ni trop misérable ni trop vaste, on y trouve du blé en abondance, du bon vin. La pluie n'y manque pas, ni l'enrichissante rosée, terre de chèvres et de vaches. Les forêts y sont de toute essence et les abreuvoirs toujours pleins. C'est pourquoi, étranger, le nom d'Ithaque a gagné Troie, qu'on dit pourtant être fort loin de la Grèce.
Ainsi dit-elle, Ulysse l'Endurant fut plein de joie à la vue de l'île où il était né.
Comme si c'était à cause de ces abreuvoirs bien remplis qu'Ithaque était connu à Troie, et non pas à cause des ravages qui a causé Ulysse. On apprend qu'Ithaque est une île modeste, bien équilibrée entre le sec avec ses rochers et l'humide avec la pluie et la rosée, entre les cultures et l'élevage. Une île où il fait bon vivre, même s'il n'y a pas la place pour y faire courir des chevaux. Ulysse veut faire le malin et dit au jeune pâtre que oui, évidemment, il a bien entendu parler d'Ithaque quand il était chez lui en Crète. Il invente toute une histoire comme quoi il est crétois. Il a dû quitter son pays, la Crète, parce qu'il a tué le fils du roi. Ce fils voulait lui dérober l'énorme butin qu'il avait ramené de Troie. Les Phéniciens l'auraient pris sur leur bateau et l'auraient laissé là, à Ithaque, sans lui dire où il était. Un mensonge crétois. C'est bien connu dans la culture grecque. Les Crétois passaient pour être des menteurs. Même le Crétois qui dit que tous les Crétois sont des menteurs est un menteur. Ce qui crée une confusion infinie. S'il dit la vérité en disant que les Crétois sont des menteurs, il dirait quelque chose de faux, puisque lui-même, qui est un Crétois, ne serait pas menteur. On n'en sort pas. Ulysse, en mentant comme un Crétois, pense avoir joué un bon tour à ce jeune homme. Il n'a pas vu que c'était Athéna. Mais Athéna rigole. Elle retrouve bien son Ulysse habituel, fourbe, menteur. Elle avait voulu le rendre méconnaissable avec la brume qu'elle a répandue. Et c'est lui qui prétend ne pas se faire reconnaître. Mais ça lui ressemble trop. Athéna lui donne de petites tapes amicales et reprend sa forme de déesse. Enfin, on ne sait pas si c'est sa forme. Elle apparaît comme une grande femme digne, comme les humains se la représentaient d'habitude.
Athéna, dont l'œil étincelle, sourit, le flatta de la main et reprit les traits d'une femme belle, grande et savante en splendides ouvrages. Elle lui adressa ces paroles ailées.
Il serait fourbe et astucieux celui qui te vaincrait en quelque ruse que ce soit, fût-il un dieu, ô malin, ô subtil, ô jamais rassasié de ruse. Ne vas-tu pas, même dans ton pays, abandonner cette passion pour le mensonge et mes fourbes discours? Allons, n'en parlons plus. Puisque nous sommes, toi et moi, des astucieux, toi de loin, le premier des hommes en conseil et discours, moi, fameuse entre tous les dieux pour ma finesse et mon astuce.
Mais, en tout cas, un humain sera toujours moins malin qu'un dieu. Ulysse, qui se croit très futé, n'a même pas su reconnaître Athéna. La déesse prétend qu'elle a été là, à côté de lui, pour le protéger pendant toutes ses épreuves. Mais Ulysse peut répondre qu'il n'a jamais vu la déesse à ses côtés pendant ses années d'errance. Il ne l'a jamais vue aidante. À Troie, oui, pendant toute la guerre. Mais après, pendant toutes les épreuves de son très long retour, jamais. Et de fait, Athéna semble n'être intervenue qu'une seule fois. Quand elle a transformé Ulysse lors de son arrivée dans l'île de Nausicaa, elle l'a lavé, l'a couvert de beauté et de grâce, pour qu'il n'effraie pas les Phéaciens et soit bien accueilli par eux. Mais ça, c'était à la toute fin du voyage. Sinon, à rien. Ulysse lui fait savoir à quel point il s'est senti abandonné par elle.
Déesse, il n'est pas aisé de te deviner au passage, même à l'homme éprouvé. Tu prends tant de formes diverses. Ce que je sais, c'est qu'autrefois, tu m'as été propice quand nous luttions sous Troie, nous autres Grecs. Quand nous eûmes pillé la citadelle de Priam, réembarqué, et qu'un dieu nous eût dispersé, je ne te revis plus, fille de Zeus, ni ne sentis ta présence à mon bord pour me défendre du malheur. Mais en ayant toujours en moi ce cœur rompu, j'errai jusqu'à ce que les dieux m'eussent tiré de peine, et que, dans le riche pays des Phéaciens, tu me conduises, rassurante, à leur cité.
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On s'endort au soleil qui nous caresse et l'on paraisse sans songer à demain dans mon île. Ah, comme il fait doux. Bien tranquille, près de ma doudou, sous le grand cocotier qui se balance en silence, nous rêvons de nous. Dans mon île, un parfum d'amour s'est faufilé dès la fin du jour. Elle accourt m'étendant ses bras dansés. Douce et fragile, dans ce plus beau atout, ses yeux brillent et ses cheveux bruns s'éparpillent sur le sable fin. Et nous jouons au jeu d'Adam et Ève, jeu facile qu'ils nous ont appris. Car mon île, c'est le paradis.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe évoque la surprise d'Ulysse, qui ne reconnaît pas sa patrie.
Il est trompé exprès par Athéna, qui fait qu'il ne reconnaît pas ses lieux. Et il se lève, il gémit, et la question qu'il pose, c'est exactement celle qu'il pose à chaque fois qu'il arrive dans un de ces lieux non humains. Est-ce que je suis chez des sauvages, chez des gens civilisés? Est-ce qu'ils me cultivent? Est-ce qu'ils sont hospitaliers? Donc, il est amené à poser exactement ces mêmes questions sur sa propre terre, qu'il ne reconnaît pas.
Oui. François Hartog, historien.
C'est comme si le voyage continuait. Donc, c'est aussi une manière pour le Homère de créer comme ça du suspense. Il est chez lui, mais il ne sait pas qu'il est chez lui. Et la brume va se dissiper et il va enfin pouvoir reconnaître qu'il est chez lui. Et les ennuis continuent, évidemment.
Les dieux rôdent sur la terre. Ils vont partout sans qu'on les remarque. Ils voient tout. Mais parfois, ils ne font rien. Ils laissent les humains se débrouiller tout seuls. Les dieux ont fixé le but à atteindre. De ça, ils ont le pouvoir. Puis ils attendent, ils regardent, s'amusent ou prennent pitié. C'est selon. Athéna a laissé Ulysse se débrouiller tout seul sur la mer. Elle a obtenu de son père Zeus qu'Ulysse puisse enfin quitter l'île de Calypso après 7 années et rentrer chez lui. Mais avant, elle n'était pas là. Elle n'a pas aidé Ulysse chez les Cyclopes, chez Circé face aux sirènes, dans la passe si dangereuse de Charybde et Scylla. C'est une vraie question. Pourquoi cette absence? Était-elle en colère? Il est vrai qu'Ulysse n'avait pas toujours été correct avec Athéna. Pendant la guerre, à Troie, une prédiction avait dit que la ville ne pouvait pas tomber tant que la statue de la déesse resterait en place dans le temple qui lui était consacré à Troie. On appelait cette statue le Palladium. Ulysse le malin et son compère Diomède sont allés de nuit la voler. Troie pouvait donc tomber. Pendant le retour de ce coup de main, Ulysse a essayé de descendre Diomède et de garder le palladium pour lui. Mais sous la lune, il a été trahi par son ombre. Diomède a vu le geste qu'Ulysse préparait et n'est pas mort. Homère ne dit pas un mot de cette indélicatesse d'Ulysse contre Athéna et contre Diomède. Mais c'était un fait bien connu. Athéna et Ulysse, d'une certaine manière, sont trop semblables. Par l'intelligence, le sens de la ruse, la force guerrière, le goût de la technique, ils pouvaient donc être parfois rivaux. Sans doute qu'Athéna en voulait à Ulysse, comme elle en voulait aux autres Grecs, pour tout ce qui s'est passé pendant la prise de Troie. Pendant cette nuit horrible, les Grecs ont été d'une brutalité monstrueuse. Un des leurs a essayé de violer la princesse Cassandre dans son temple à elle, Athéna. La déesse en voulait aux Grecs et a machiné la dispersion des bateaux grecs pendant le voyage du retour. Ce retour fut un désastre. C'est peut-être pour cela qu'Athéna n'a pas protégé Ulysse au début de ses errances. Elle a laissé dériver après la grande tempête qui a détourné Ulysse de sa route et qui l'a entraîné jusqu'au pays des Lotophages, puis chez le Cyclope. Mais après, il y eut l'immense colère de Poséidon, le dieu de la mer, qui a poursuivi Ulysse de sa haine parce qu'il avait aveuglé son fils, le cyclope Polyphème. Athéna déclare à Ulysse qu'elle ne pouvait pas s'opposer à Poséidon, frère de Zeus. La mer, les vagues, les tempêtes, c'est le domaine réservé de Poséidon. Mais maintenant, c'est différent. Ulysse a quitté l'empire de Poséidon. Chez lui, à Ithaque, il doit affronter la question bien terrestre du pouvoir sur sa terre, sur ses richesses, sur sa famille. On est du côté d'Athéna, grande déesse politique qui sauvegarde la prospérité des communautés qu'elle aime. Athéna, Poséidon, sont des divinités rivales. Cela s'est vu lors de la fondation de la ville d'Athènes, une ville que convoitaient les deux divinités. Poséidon voulait donner aux Athéniens le pouvoir sur la mer, sur la navigation. D'un coup de son trident, il a fait jaillir des rochers de l'acropole une source d'eau salée, comme l'eau de la mer. Athéna, elle, a fait pousser un olivier. Les Athéniens ont préféré l'olivier et Athéna.
Jacques Lacarrière, écrivain.
C'est une déesse d'ailleurs très impétueuse et très rigide. Elle ne plaisante pas beaucoup, elle n'aime pas être désobéie, elle n'aime pas surtout ne pas être écoutée. Et donc, oui, elle est heureusement son alliée. Mais enfin, c'est une... On ne peut même pas dire que ce soit une amie, c'est une conseillère. C'est, je dirais, une duègne, une gouvernante vis-à-vis d'Ulysse. Et quand elle dit quelque chose, ce n'est pas « Oh, mon cher Ulysse, tu devrais, si tu avais le temps, faire ça. » C'est « Voilà. Hein, » d'ailleurs, on ne désobéit pas au conseil d'une déesse.
Maintenant, Ulysse doit affronter un problème politique et non plus un problème marin. Il doit se débarrasser de ses ennemis, les prétendants. Athéna va l'aider activement. Elle a confiance. Elle ne l'abandonnera pas, car elle connaît les qualités d'Ulysse.
Prévenant, vif d'esprit, solide dans sa pensée.
Athéna lui explique la situation. Elle lui certifie que son épouse, Pénélope, lui a été fidèle, qu'elle pleure chaque jour et chaque nuit. Puis, il faut agir. D'abord, il est urgent de cacher les trésors qu'Ulysse a reçus des Phéaciens. Elle propose de les mettre au fond de la grotte, juste à côté du grand olivier, cette grotte merveilleuse, à la fois adorable et sombre, brumeuse, dont nous avons parlé la semaine dernière, la grotte des nymphes. Ulysse, qui connaît bien cette grotte, y apporte tous les cadeaux des Phéaciens, le coffre, les chaudrons, les trépieds. Athéna ferme la caverne avec une grosse pierre. Cette grotte était célèbre dans l'Antiquité. Un culte à Ulysse y était rendu, comme on faisait pour les grands héros. Et grande surprise, on l'a sans doute retrouvée. Dans les années 1930, dans une grotte près de la mer, au bord de la plage de Polis, sur la côte nord-est d'Ithaque, une mission archéologique anglaise a découvert les restes d'une série de 12 trépieds en bronze du 9e ou 8e siècle avant notre ère, c'est-à-dire un peu avant la date probable de la composition du poème d'Homère. Un trépied avait déjà été découvert avant. Ces 13 trépieds rappellent immanquablement les trépieds offerts à Ulysse par Alcinoos et les 12 chefs phéaciens. Étrange, cette coïncidence si précise entre le texte de l'Odyssée et la réalité la plus concrète. Est-ce que le poème reprend un fait légendaire et rituel propre à Ithaque ? Il y avait bien des légendes, bien des poèmes sur Ulysse et Ithaque avant l'Odyssée d'Homère. Une légende ancienne dit qu'Homère avait encore ses yeux quand il est venu enquêter à Ithaque pour récolter ce qu'on savait d'Ulysse. Il aurait vu ses trépieds ? Ou les a-t-on mis là à cause de l'Odyssée ? On ne sait pas. En tout cas, ces trépieds et d'autres objets témoignent de l'existence d'un culte rendu à Ulysse. Ce culte pouvait avoir existé avant la composition de l'Odyssée. Et il est tout à fait possible qu'Homère en ait entendu parler. Si c'est le cas, il transforme ce rite. Les trépieds, selon Homère, n'ont pas été apportés en offrande par des fidèles, mais par Ulysse lui-même. En 1953, la grotte s'est effondrée à cause d'un tremblement de terre.
Catastrophe sans précédent en Grèce. Les trois îles ioniennes d'Ithaque, de Céphalonie et de Zante ont subi le tremblement de terre le plus terrible de toute leur longue histoire. Partout, le sol s'est ouvert, détruisant villes et villages. Après ce drame qui a fait plusieurs milliers de morts et de blessés et qui laisse plus de 100 000 sinistrés, l'île d'Ulysse et de Télémaque, où fleurissait l'olivier, n'offre plus que le spectacle de la désolation et du désespoir.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestui-là qui conquit la toison, et puis rap-ta-ra, rap-tap-ta-ra, et puis y retourner plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Les femmes tricotent au point de croix. Un point à l'envers. Les hommes n'ont froid qu'en hiver. Ce grec au nom Anis quitte à son île en Ac, laissant sa femme qui tisse et son fils Télémaque. Et puis rap-ta-ra, rap-tap-ta-ra, vécu dans d'autres ports des amours de passage, de quoi rêver encore le reste de son âge, son âge. Un les femmes tricotent au point de croix. Un point à l'envers, les hommes n'ont froid qu'en hiver. Les hommes sont des marins qui rêvent de haute mer, d'histoires sans lendemain et d'amours adultères. Et puis, rap-ta-ra, rap-tap-ta-ra, ils rêvent d'une fille au loin, sage, fidèle et myope, qui tisse son destin comme le fit Pénélope. Et puis, rap-ta-ra, rap-tap-ta-ra, un point à l'endroit, les femmes tricotent au point de croix. Un point à l'envers, les hommes n'ont froid qu'en hiver.
Pierre Judet de la Combe raconte comment la déesse Athéna transforme son protégé Ulysse en mendiant.
Athéna et Ulysse doivent combiner un plan pour chasser les prétendants. Ulysse dit qu'il est prêt à se battre, comme il s'est battu à Troie. Il pourrait affronter 300 hommes. Athéna hausse les épaules. Elle déclare qu'elle va l'aider, comme elle l'a aidé pendant la guerre de Troie. Mais là, il ne s'agit pas de faire le fanfaron. Il faut ruser. Il faut changer l'aspect d'Ulysse et le rendre méconnaissable et affreux. Ainsi, il pourra circuler en toute sécurité.
Oui, certes, je t'assisterai. Je serai là quand nous travaillerons. Je crois que beaucoup souilleront le sol infini de sang et de cervelle parmi ces prétendants qui te dévorent tout ton bien. Allons, je te rendrai méconnaissable à tous les yeux. Je flétrirai ta belle peau sur ton corps souple, ferai tomber tes cheveux blonds et te revêtirai de haillons qui rendront ta vue odieuse à tous. J'éraillerai tes yeux si beaux jusqu'à présent pour que tu sois hideux à tous les prétendants, à ta femme et au fils que tu as laissé au palais.
D'un coup de baguette, Athéna transforme Ulysse. Il a l'apparence d'un vieux mendiant très abîmé. Ses vêtements sont crasseux, tachés de fumée. Il marche avec un bâton et porte un sac tout troué. Il est moche. Ce n'est plus une buée, une vapeur qui le rend méconnaissable. Il est effectivement, physiquement métamorphosé et peut donc être enfin vraiment Ulysse. La première étape de la reconquête d'Ithaque est selon Athéna la maison de l'un de ses esclaves les plus fidèles, les plus constants. Il s'agit d'un porcher, un esclave toujours dévoué, soucieux de préserver les biens de son maître contre l'insolence des prétendants, ces jeunes gens arrogants qu'il déteste. Athéna dit à Ulysse d'aller d'abord le voir. Ce porcher s'appelle Eumée.
Tu pourras le trouver avec ses porcs. Il paisse près de la roche du Corbeau, sur la source Arétuse, se nourrissant de glands salubres et buvant l'eau noire qui accroissent la graisse abondante des porcs. Reste là près de lui et questionne-le longuement.
Ulysse quitte la plage, prend un chemin pierreux vers les hauteurs de l'île. Il traverse une forêt et arrive chez Eumée, le divin porcher, dit Homère. Ulysse découvre un lieu qu'il ne connaissait pas. Eumée s'est construit de sa propre initiative un domaine parfait, régulier, géométrique pour ses innombrables porcs. Il a construit après le départ d'Ulysse, sans en parler à ses maîtres, à savoir Pénélope, trop occupée à se protéger des prétendants, ni au vieux père d'Ulysse, Laërte, rongé de tristesse à cause de l'absence de son fils. Cette porcherie ressemble à un palais, où à l'île si parfaite déole le maître des vents avec son enceinte bien circulaire. Tout est fait pour les animaux, tout est ordonné, rationnel, solide, bien protégé. C'est spectaculaire.
Ulysse le trouva assis devant l'entrée. Il s'était là bâti une cour élevée en un lieu dégagé. Une belle et grande cour ronde que cet homme avait bâtie tout seul pour ses porcs. Le maître partit, sans consulter ni maîtresse ni le vieux Laërte, avec des rocs taillés qu'il avait couronnés d'épines. Là, autour, il avait planté serrés des pieux solides de bout en bout, faits de cœurs de chêne équarris. Dans la cour, il avait ménagé 12 étables proches l'une de l'autre, où logeaient ses porcs. Dans chacune, 50 de ces animaux vautrés étaient enclos, des truies ayant mis bas. Les mâles, beaucoup moins nombreux, passaient la nuit dehors. À force d'en manger, les prétendants les décimaient, car le porcher devait leur envoyer toujours le meilleur de ses gros verras. Ils se trouvaient au nombre de 360. Au pré veillait toujours, pareil à des fauves, les chiens. Quatre chiens qu'élevait le capitaine des porchers.
On est loin de la grotte bruyante où le cyclope gardait ses moutons. Cette cour, ces étables, ressemblent plutôt au palais de Priam à Troie, avec bien rangées dans la cour les chambres construites pour ses fils et pour ses filles. Ou encore au palais d'Alkinoos chez les Phéaciens, mais pour des bêtes, pour garder et mettre à l'abri les troupeaux du maître, Ulysse. Pourquoi une telle perfection? Pourquoi tous ces détails? Homère construit avec cette porcherie un lieu essentiel pour l'histoire d'Ulysse. Le palais d'Ulysse est occupé par des malotrus qui ne connaissent aucune loi, aucune limite. Il faut les supprimer. La contre-offensive viendra de la ferme d'un esclave, Eumée le porcher. C'est là qu'Ulysse, puis son fils Télémaque, avec Eumée, vont mener la résistance, vont monter l'expédition qui va imposer l'ordre contre les débordements des jeunes prétendants. La porcherie est la contre-image du palais dénaturé qu'est devenu le palais d'Ulysse. C'est la base arrière à partir de laquelle la lutte pourra être menée. Cette base est atypique, inattendue. Ce n'est pas seulement un bel exemple d'architecture rurale réussie. C'est, par rapport au palais d'Ulysse, et à tous les lieux plus ou moins déments que nous avons rencontrés en suivant les aventures d'Ulysse, une promesse d'harmonie retrouvée. Et ce n'est sans doute pas un hasard que cette porcherie si parfaite soit l'œuvre d'un solitaire, d'un homme sans famille, qu'il a construite lui-même selon son idée, avec ses mains, sans en référer à personne, à aucune autorité. Comme l'élite dans l'île d'Ithaque est délirante, avec les prétendants, ou impuissante, Pénélope, Laërte, la reconquête vient d'en bas, d'un solitaire qui est un esclave. On apprend qu'Eumée, l'esclave d'Ulysse, de Pénélope, s'est acheté lui-même un esclave sur ses propres économies pour l'aider à faire vivre ses troupeaux. Il fallait une initiative individuelle pour que la société puisse se reconstituer. Il fallait un esclave qui est en fait plus noble, plus divin que beaucoup des petits notables d'Ithaque qui ont été des lâches, qui ont été déloyaux envers Ulysse. Le salut va venir d'un esclave qui sait s'occuper des animaux, alors que les seigneurs sont incapables de gérer leur île pour le bien commun. Il faut recommencer à zéro, partir de l'essentiel, partir des bêtes, de la manière dont il faut les traiter pour que la vie, jour après jour, soit possible. Il faut partir du travail, de la production élémentaire, et non des revendications de noblesse, de richesse, de gloire. Cela doit venir après. Le vrai monde d'Ulysse, celui sur lequel il pourra régner en rendant les gens heureux autour de lui, doit d'abord assurer l'essentiel. Comment créer la solidarité minimale qui va permettre de mener la contre-offensive contre l'injustice? Ulysse, métamorphosé en mendiant, va devoir tromper son monde, mentir. Comment, dans ces conditions où la fausseté est nécessaire, créer de l'entente, de la sympathie sincère, par des gestes basiques, minimaux, de simplicité? Ulysse semble être vieux, pauvre, il ne doit pas la ramener. Son arrivée à la porcherie montre à la fois qu'il n'est pas prétentieux, mais respectueux, et qu'il est intelligent. Quand il arrive devant la maison d'Eumée, les quatre chiens aboient férocement. Ulysse a peur, mais sagement il s'assied par terre et ne bouge pas.
Les chiens, ces glapisseurs, tout à coup surprirent Ulysse. Ils lui coururent sus en aboyant. Ulysse alors eut la sagesse de s'asseoir. Son bâton lui glissa des mains et devant les tables, il eut souffert un ignoble affront. Mais le porcher qui accourut bientôt d'un pied rapide bondit à travers l'entrée. À grands cris, il chassa les chiens de tous côtés sous une grêle de cailloux et s'adressant au maître...
Les chiens ont bien failli, vieillard, te déchirer d'un coup. Et j'en aurais été par toi couvert de blâme.
On est loin de l'accueil chez Circé, la magicienne. Il y avait bien des bêtes féroces devant l'entrée de son palais, des ours, des lions, des loups. Mais ces bêtes étaient complètement dénaturées. Et toutes douces cherchaient à se faire câliner. On était rassurés, on entrait, et on était d'un coup de baguette transformé en porc et emmené dans une porcherie bien cachée dans le palais. Là, c'est l'inverse. Et c'est un monde normal. D'abord, ça aboie. Puis on est accueilli avec bienveillance au milieu des porcins. Eumée accueille l'inconnu chez lui. Il va le restaurer, et selon la coutume, ce n'est qu'après qu'il lui demandera qui il est. Pour lui, l'hospitalité est sacrée, et il s'excuse du peu qu'il peut offrir. Les pauvres disposent au moins de cela, le plaisir d'accueillir, comme le veulent les dieux. Si Ulysse n'avait pas disparu pendant 20 ans, lui, Eumée, aurait pu donner plus. Il aurait pu, en tant qu'esclave respecté, bien doté par son maître qui l'a tant aidé par son travail, avoir une vraie maison, une place reconnue dans la société. Le porcher dit qu'il aurait pu être plus généreux avec l'étranger.
Il serait impie, étranger, de mépriser un hôte, fût-il moindre que toi. Car les mendiants, les étrangers viennent de Zeus, et le moindre don leur fait joie, qui est nôtre. C'est tout ce que peut faire un serviteur, car il tremble toujours là où des maîtres font la loi, qui sont jeunes. Ah, celui dont les dieux gênent le retour, il m'aurait bien soigné, il m'aurait donné quelque avoir. Tout ce qu'un maître généreux donne à son serviteur, une maison, un domaine, une femme de haut prix, s'il a peiné pour lui et qu'un dieu a béni son champ, comme a été béni ce champ où je me suis fixé. Oui, il m'aurait comblé s'il avait pu vieillir ici.
Mais, dit Eumée, Ulysse est mort. On ne sait ni où ni quand. Eumée a donc dû construire son propre monde, tout seul. Comme le cyclope, il est isolé, sans famille. Mais ce qu'il vise, ce n'est pas la simple survie, jour après jour, mais la sauvegarde des biens de son maître. Il n'aspire qu'à une chose, le rétablissement de liens normaux dans la société, ce qu'apporterait le retour d'Ulysse. Mais Eumée le croit mort. Comme la société est pervertie, la valeur des vraies normes qui rendent une bonne société possible est défendue par en bas, parce qu'il y a de plus humbles et de plus travailleurs. On est loin de l'Iliade et des querelles d'honneur entre grands héros. Ulysse lui manque par-dessus tout, parce qu'il a su respecter l'esclave productif et bienveillant que Mé est devenu. C'est Ulysse qui l'a fait vraiment exister. Il lui manque plus que ses deux parents. Il aurait plus plaisir à revoir son maître que son père et sa mère.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Even though I tried, even though I cried, even though I made mistakes, but they were for you. After all I've seen, you treat me badly. I can't wash away your sweetest taboo. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, don't wanna lose. And I keep on loving you, I keep on loving you, I keep on loving you.
Even though I tried, even though I cried, even though I broke myself, I broke me for you. And even all those times I let you cut away my wings, now I'm flying back to misunderstood. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, don't wanna lose. And I keep on loving you, I keep on loving you, I keep on loving you. Got all of me, your misery.
Pierre Judet de Lacombe parle de la générosité d'Eumée, le génial porcher.
Bien que triste, Eumée accueille Ulysse, le fait asseoir dans sa cabane et lui offre à manger. Eumée va chercher deux gorées, les sacrifie, les fait cuire. ce sont de petits porcs, la viande bien grasse, des porcs adultes. Eumée doit la réserver pour les prétendants, qui n'arrêtent pas d'en exiger. Mais le repas est heureux. Ulysse mange et boit. Une petite société vient de naître. Quand Ulysse a bien mangé et bien bu, il demande à Eumée qui est ce maître qu'il regrette tant. Peut-être que lui, le vagabond, il l'a vu quelque part. Eumée lui répond immédiatement que son hôte fait fausse route, qu'il ne l'écoutera pas. Trop de charlatans sont venus à Ithaque avec de fausses nouvelles. Ulysse essaye de rassurer Eumée sans se démasquer. Il affirme qu'il a des nouvelles d'Ulysse. Il jure même, avec serment, qu'Ulysse reviendra, qu'il sera là à la nouvelle lune. Mais Eumée n'en croit pas un mot. Et comme on fait d'habitude, une fois qu'on a donné à manger à un étranger, il lui demande qui il est. Ulysse se lance alors dans un long récit, un tissu de mensonges. Il raconte des salades, longuement, en disant qu'il est crétois, qu'il a connu plein d'aventures, il est très précis. On reconnaît des épisodes qu'il a vraiment vécus, et même des épisodes que, selon la tradition ancienne, Ulysse vivra après ce que raconte l'Odyssée. C'est du grand art. Ulysse a l'air sincère. Eumée est fortement ému par la longue série des malheurs que ce vieillard dit avoir vécu. Il décide de lui offrir un très bon repas. Pour une fois, il fait égorger et dépecer un bon gros porc, un de ces porcs qui sont normalement réservés à ces parasites que sont les prétendants. Parasites que Rabelais appelait du joli mot de croque-lardon.
Le divin gardien de pourceaux dit à ses gens
« Amenez le plus beau des porcs, que je l'immole à l'hôte venu de loin. Nous en profiterons aussi, nous qui peinons depuis longtemps pour ces porcs aux dents blanches. » Quand d'autres, impunément, vivent du fruit de nos fatigues.
Eumée offre à Ulysse une part royale, l'échine du porc. C'est comme s'il était reconnu comme roi. Ulysse mange une part de choix, qui est d'habitude mangée par les prétendants. Il les a remplacés, toujours sans se faire reconnaître. Reste à reconquérir réellement le pouvoir. Ce divin porcher, Eumée, le génial esclave, a une histoire passionnante, pas banale du tout. Cette histoire qu'il raconte lui-même plus tard aide à mieux comprendre la portée de ce que sera la longue et difficile lutte d'Ulysse pour reconquérir son royaume. Le passage chez Eumée était l'étape nécessaire. Eumée est un esclave, et sa naissance pouvait faire rêver. Il raconte à Ulysse qu'il est de sang royal, et son récit n'est pas mensonger, contrairement à ceux d'Ulysse. Son père régnait sur une île où les gens vivaient dans une sorte d'âge d'or. Il n'y avait pas de maladie et la mort y était douce. Cette île s'appelle Syra. Elle est toute proche d'une autre qui portait le nom de l'île aux cailles, Ortygie. Son père s'appelait Ctésios, c'est-à-dire l'homme qui a beaucoup de biens dans sa maison. Il régnait sur l'île de Syra.
Il est une île nommée Syra, tu la connais peut-être, au-dessus d'Ortygie où tourne le soleil. Peu peuplée, c'est pourtant une terre assez bonne pour les bœufs, pour les moutons, le vin et le froment. Le peuple ignore la famine. Aucune autre odieuse maladie ne s'y attaque aux malheureux mortels. Quand les générations vieillissent, Apollon, dieu à l'arc d'argent, et Artémis viennent de leurs plus douces flèches les frapper. Il y a là deux cités qui se partagent le pays. C'est sur ces deux cités que mon père régnait. Ctésios, fils d'Orménos, semblable aux immortels.
Il est impossible de savoir où se trouvait cette île de Syra. Le nom fait penser à la Sicile, à Syracuse, cette cité merveilleuse qui est en partie construite sur une presqu'île appelée Ortygie, l'île aux cailles, du même nom que celle dont vient de parler Eumée. Mais Ortygie est aussi l'ancien nom de l'île de Délos, île vouée au dieu Apollon et à sa sœur Artémis. Or, ce sont ces deux divinités qui viennent sur l'île de Syra avec leurs flèches, abréger les souffrances des humains en train de mourir. Pas loin de l'île de Délos, Ortygie, il y a Syros, une autre île des Cyclades. On ne sait pas que faire de ces rapprochements possibles. Homère semble faire exprès de tout mêler pour créer un lieu fantastique, heureux, une île bénie. Eumée, encore enfant, sera brusquement enlevé à ce lieu de bonheur, à cet âge d'or lointain. Ses parents avaient à leur service une esclave phénicienne.
Belle, grande et savante en splendides ouvrages.
Tiens, ce sont exactement les mots qui ont servi à décrire Athéna. Mais cette femme est fourbe. C'est elle qui élevait le petit Eumée. À l'origine, elle était d'une famille très riche, mais elle a été enlevée par des pirates grecs qui l'ont vendue sur l'île de Syra aux parents de Mée. Un jour, arrivent à Syra des marins phéniciens qui ont très mauvaise réputation en Grèce.
De vrais rapaces avec leur cargaison de camelot.
Ces marins séduisent la jeune femme.
Ces enjôleurs de phéniciens la subornèrent. L'un d'abord, au lavoir, tout près du bateau creux, la séduisit. Cela trouble le cœur des faibles femmes, même des plus honnêtes.
Puis, il lui propose de la ramener chez elle, en Phénicie. La jeune femme veut qu'on la traite comme une femme libre. Elle ne veut pas être à la merci de ses marins et souhaite payer le prix de son voyage. Pour cela, elle a un moyen. Les marins n'ont qu'à prendre avec eux Eumée, le fils de la famille où elle travaille. C'est un jeune prince. Il a de la valeur. Il rapportera beaucoup s'il est vendu comme esclave.
J'apporterai de l'or, ce qu'il y aura sous la main. J'aimerais aussi bien payer le prix de mon passage, car j'élève dans le palais le fils de ce seigneur, un astucieux enfant qui trotte après moi quand je sors. Je pourrais l'emmener à bord. Il vous vaudra un très haut prix, où que vous le vendiez chez des gens d'autres langues.
Un soir, l'esclave phénicienne quitte le palais, emporte 3 coupes d'or. Elle entraîne l'enfant qui la suit, sans réfléchir. Eumée est vendue à Ithaque. Le père d'Ulysse, Laërte, l'achète un bon prix. Anticlée, la mère d'Ulysse, l'élève comme un fils. Eumée est donc, d'une certaine manière, le frère cadet d'Ulysse. Puis, devenu jeune homme, Eumée est envoyé à la campagne pour qu'il s'occupe des troupeaux de la famille. Mais le lien affectif avec la mère d'Ulysse n'est pas rompu. Après le départ d'Ulysse pour Troie, Eumée va régulièrement consoler Anticlée jusqu'à sa mort.
Allez-vous-en! Vous êtes la honte de cette maison! Mais qu'avez-vous donc à la place du cœur? Pourtant, vous avez été élevé ici, comme toutes vos compagnes!
De quel droit oses-tu commander?
Je suis le fils d'Ulysse!
Tu n'assures plus rien dans la tête!
Voyant que la situation se dégrade fortement à Ithaque, avec l'arrivée de ces prédateurs que sont les jeunes prétendants, il construit sa porcherie comme une forteresse, où il préserve ce qu'il peut de la richesse d'Ulysse, et il la gère et la développe par son travail. Derrière cette histoire personnelle de Mée, il y a tout un grand mythe, celui du devenir de l'humanité en général. Eumée, enlevé par la Phénicienne, a dû quitter un âge d'or, un âge de bonheur. Il arrive comme esclave dans un lieu bien réglé, Ithaque, chez les parents d'Ulysse, où il est aimé, mais où il doit travailler. Les années passent et la société où il vit connaît après le départ d'Ulysse une décadence, une chute. L'injustice, le non-respect des règles y règnent. Il s'agit de rétablir, si possible, un état des choses qui soit juste, ordonné. Le travail du porcher, sa fidélité et son sens de la justice seront le point de départ pour qu'un ordre juste se rétablisse. Cela aura lieu. Ulysse va finalement revenir, va rétablir l'ordre et à la fin de sa vie, quand il va mourir après une vieillesse opulente, la population autour de lui sera prospère, heureuse. Ulysse aura été un bon roi, un roi juste. Quelque chose comme un âge d'or, comme ce qui s'en rapproche le plus verra le jour. C'est ce que lui a prédit le devin Tirésias.
La mort viendra de la mer sur ta tête, une mort vraiment douce qui viendra pour t'atteindre dans ton onctueuse vieillesse. Et heureux les hommes qui t'entoureront. Je te dis des mots véridiques.
Derrière cette histoire d'une chute dans l'injustice, puis d'une remontée, on reconnaît ce qu'un autre poète, plus ou moins contemporain de l'Odyssée, a raconté comme mythe sur l'histoire de l'humanité. Ce poète est Hésiode, qui a déroulé le mythe des âges humains successifs dans son poème « Les travaux et les jours ». On y retrouve à peu près les étapes de l'histoire de Mée. Ça commence par un âge d'or, où les hommes vivent heureux. Ils meurent, mais la mort est douce. Puis ça se dégrade. Après l'âge d'or vient l'âge d'argent, violent, immature. Puis l'âge de bronze, âge de la guerre totale. Ça s'améliore avec l'âge des héros, des demi-dieux. C'est l'âge des Achilles, des Ulysse, des héros valeureux de la guerre de Troie. Puis la chute de l'humanité recommence, et elle est terrible. C'est l'âge de fer, le nôtre, qui va se pervertir de plus en plus, jusqu'à ce que règne sur l'humanité l'injustice, la discorde, la violence. Hésiode avertit son public. Si l'humanité veut éviter cette déchéance probable, elle doit travailler et instaurer un régime politique juste. Ce ne sera pas l'âge d'or qui est définitivement perdu, mais ce qui peut s'en rapprocher le plus. L'Odyssée raconte comment Ithaque, sous l'emprise injuste des prétendants, ressemble à l'âge de fer décrit par Hésiode. L'injustice y domine. Eumée, l'esclave juste et travailleur, va contribuer au redressement. Son histoire pose la possibilité qu'une société plus juste voit le jour. Mais l'Odyssée ne se contente pas de dire, comme le fait le sage poète Hésiode, qu'il faut que les humains travaillent avec ardeur et respectent la justice. Cette sagesse est un peu naïve. La question qui se pose à Ulysse et que se pose le poème est plus brutale et très réaliste. Quand l'injustice règne, comme à Ithaque, quand c'est l'âge perverti qu'est l'âge de fer, comment fait-on pour rétablir le droit, la justice, le travail? Ce ne sera pas simple. Rétablir le droit contre les injustes, les criminels, supposera la ruse, la violence extrême, la guerre civile. Il faudra l'extermination des prétendants, le supplice cruel des servantes qui ont couché avec eux. Mais comment sort-on de cette violence pour que règne de nouveau la justice? La question est ouverte. L'épopée est aujourd'hui d'une forte actualité.
Il faudra bien, Pénélope, que tu achèves un jour cette tapisserie, et il te faudra alors choisir un époux parmi les prétendants.
Non, aucun d'entre eux ne peut être digne d'être comparé à lui.
Mon cœur, ma mie, mon âme, mon ciel, mon feu, ma flamme, mon puits, ma source, mon val, mon miel, mon baume, mon Graal, mon blé, mon or, ma terre, mon soc, mon roc, ma pierre, ma nuit, ma soif, ma faim, mon jour, mon bien. Voilà que tu reviens.
Ulysse est au bord de l'action pour sa reconquête. Nous le laisserons se reposer un peu, avant qu'il ne se fasse reconnaître par son fils Télémaque et n'ose retourner dans son palais, toujours sous l'apparence d'un vieux mendiant. Ce ne sera pas triste. Avant de le suivre, nous ferons une pause, à cause de l'actualité. On quittera un moment l'épopée pour entrer en comédie. Vous avez remarqué qu'il y a quelques jours, deux étranges personnages ont pris le pouvoir dans le pays le plus puissant du monde, messieurs Trump et Musk. On peut se demander ce qu'en aurait dit le très grand poète comique Aristophane, qui a fait rire tant de fois les Athéniens. Sa comédie « Les oiseaux » montre la prise du pouvoir sur le monde par deux Athéniens spécialement gonflés. La semaine prochaine, ce sera donc Make Athens Great Again, un méga MAGA.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.